C'est grand, ça, 1m20 à l'épaule, ça a une grosse tête de cheval, avec une barbe sous le menton, des cornes de buffle, le corps d'un grand mulet, avec une queue à pinceau noir, c'est Bébrun. Et sur les photos, on voit toujours des troupeaux de zèbres mêlés à ceux des gnous, avec en plus des damalisques, de très jolies antilopes dont je vous parlerai un jour. Naturellement, tout ça broute de la savane. Seulement, c'est pour ça qu'ils vivent ensemble, parce que le gnou ne broute que la jeune pousse de l'herbe, le zèbre préfère le milieu et le damalisque le pied, comme ça il n'y a pas de concurrence. En première vue, le gnou n'a pas l'air très malin, un rien mouton de pénurge. Roulez lentement en jeep, ça je l'ai fait, devant un troupeau de gnous, vous les verrez vous suivre comme des moutons. Mais ils gagnent à être connus. Si vous observez un troupeau de gnous, ils vont par bandes de plusieurs centaines, vous vous apercevrez vite qu'il y a toujours quelque part, sur une éminence quelconque par là, quatre gnous absolument immobiles, qui ne broutent pas, qui se tiennent dos à dos, les quatre queues se touchant, et qui regardent vaguement l'horizon. Ce sont des guetteurs. Si à un moment donné, ces quatre-là se mettent en route, les autres les suivent aussitôt. Et vous voyez toute cette foule prendre le galop, zèbre et damalisque suivant le mouvement. Tout ça parce que les quatre, là-haut, ont vu un danger quelconque, une lionne, une hyène ou une panthère. Alors, moutons de panurge, mais ils ont su utiliser leur panurgisme pour se protéger. Ça leur est très utile, parce que toutes les femelles gnous mettent bas au même moment, en février. Et les fauves le savent, qui guettent les troupeaux ce mois-là. Or, le petit gnou ne peut suivre sa mère qu'après la 5e minute de vie. Il faut qu'il puisse filer 5 minutes après sa naissance, d'où l'intérêt de système de guetteurs. Quand le troupeau voyage, d'ailleurs, les mères et les petits sont au centre, mâles sur les bords, ce qui assure une certaine protection. Et leur panurgisme, enfin la manie de suivre celui qui va devant, le récommode pour une autre raison. Ils broutent seulement le bout de l'herbe, je vous l'ai dit. Or, l'herbe ne pousse et ne donne des bouts bien tendres qu'après les pluies au Kenya. Ils ont donc intérêt à s'en aller brouter là où il vient de pleuvoir. Or, les zèbres, comme tous les cousins de nos chevaux, sentent les moindres changements de pression. Les brouteurs eux-mêmes, ils se mettent en route vers les endroits souvent très éloignés où ils ont senti qu'il allait pleuvoir. Les gnous suivent naturellement et trouvent l'herbe fraîche qu'ils aiment. Par contre, ce panurgisme peut présenter des inconvénients. Quand la tête du troupeau au galop est par mégarde tombée sur un ravin bien raide, toute la foule suit et beaucoup de gnous se tuent ou se blessent dans la bousculade, au grand bénéfice des jeunes lions qui suivent le troupeau et qui se servent. Mais le curieux chez ces grosses bêtes, ce sont leurs amours. Ça se passe en avril-mai, quand l'herbe est haute et qu'on voyage peu. La foule de gnous broute tranquillement. Et tout à coup, voilà qu'un mâle, au lieu de marcher tête basse comme tout le monde, comme nos vaches par exemple dans les prés, se met à marcher tête haute en balançant sa tête avec beaucoup d'autorité. Ah, c'est signe qu'il faut se méfier de lui. Là-dessus, il s'immobilise, il gratte la terre du sabot comme nos taureaux dans l'arène, et il se met à décrire un cercle en galopant en rond. Il vient de délimiter son territoire, enfin sa garçonnière, l'endroit où il ne tolérera la présence d'aucun autre monsieur gnou. Les autres mâles l'évitent donc, et il reste tout seul chez lui, toujours menaçant, grattant du sabot, donnant des coups de tête dans le vide. Naturellement, il y a toujours un autre mâle, jaloux, qui vient installer son territoire tout près. Alors on se bat. Souvent, pour ne pas se faire mal, on se met à genoux pour se battre, en mêlant ses cornes à celles de l'autre, en s'efforçant de le faire tomber. Une fois le problème résolu, chacun règne sur son petit bout de terrain, et les dames gnous, qui ont vu tout ce manège d'un air indifférent, savent ce qu'il leur reste à faire, traverser tout simplement le territoire d'un monsieur. Ce qu'elles font, on ne sait pas encore pourquoi elles choisissent tel monsieur ou tel autre, et elles y passent quelques jours. Ainsi, quelques gnous se sont constitués un petit harem, ceux-là sont contents, contents. Seulement, il y a d'autres troupeaux dans la savane, et dans ces troupeaux, d'autres mâles, qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas su se créer un territoire personnel, donc pas de harem pour eux. Alors, les mâles d'un autre troupeau ont l'idée qu'ils pourraient bien trouver gnout à leurs pieds chez le voisin. Et ils s'approchent, tête haut levée et bien balancée. Alors, l'union sacrée se fait chez les mâles de notre troupeau. Ils se précipitent à la rencontre des visiteurs et les menacent des pires sévices qui suffisent plus souvent à éliminer les gêneurs. Mais le plus curieux, c'est qu'en fait, très peu de mâles se constituent un harem. Et toujours les mêmes, plusieurs années durant. Les plus forts, vraisemblablement, ce qui est bon pour l'espèce. Et tout se passe comme si la nature avait décidé qu'il doit y avoir un certain nombre de mâles par troupeau. Toujours, 9 mois plus tard, au moment de l'essence, il y a 170 petits mâles pour 100 petites femelles, ce qui est beaucoup. Seulement ces jeunes mâles, quand le troupeau est en marche, sont toujours sur les flancs, à l'extérieur, donc en danger de rencontrer des lions, des panthères, des hyènes ou des guépards. Résultat, au bout d'un an, il reste 117 mâles seulement sur les 170, et 2 ans après 108, c'est-à-dire que l'équilibre s'établit peu à peu, et que ce sont toujours les plus forts qui survivent et se reproduisent. Cet équilibrage est un phénomène qui passionne les zoologues, parce qu'il semble montrer que la nature sait ce qu'elle fait.